I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h-13h, vous connaissez le rendez-vous, c'est Midnews Weekend, 2 heures d'information non-stop avec le cocktail que vous connaissez, des témoignages, des reportages au plus près de vos préoccupations et bien sûr des débats. Et je vous présente dans quelques instants l'équipe de grands témoins qui m'entoure, vous allez les découvrir dans quelques instants, ce sont des fidèles. Mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, on commencera notre émission avec un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. On vous a posé une question, faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h? Eh bien votre réponse est oui, oui à 67%. On ira à Cagnes-sur-Mer où l'expérience a été lancée. Pour quel bilan? On en parlera avec nos invités. Dans notre émission, on ira également à Nantes. La préfecture de Nantes avait été aspergée de peinture rouge par un collectif écologiste. Eh bien, la métropole de Nantes n'a demandé qu'un euro symbolique de dédommagement au lieu des 8200 euros initialement prévus. Évidemment, cela fait réagir sur place. Et on sera avec Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique, qui n'est pas contente du tout, vous l'entendrez. Enfin, nous sommes dimanche, Élodie Huchard est avec nous. Cela veut dire que l'on va parler politique, beaucoup politique, programme chargé pour Élodie. Elle nous parlera de la grande confession de Jordan Bardella à nos confrères du journal du dimanche, mais aussi du sondage IFOP, toujours pour le JDD, sur la cote de popularité de Gabriel Attal et bien sûr celle d'Emmanuel Macron. Voilà, ça chute. Grave, nous dira Élodie. On en parlera avec nos invités aussi. Tout de suite, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot, que je salue en ce dimanche. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Dans le centre de Grande-Synthe, un mineur de 15 ans a été victime de violences aggravées dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit du cousin d'une des personnes mises en examen pour l'assassinat de Philippe Koopman, battu à mort mardi. L'adolescent a été retrouvé nu en pleine rue. Le mobile de l'agression reste à éclaircir. Pierre Emco et Sarah Varny.
Un adolescent de 15 ans a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Grande-Synthe. Retrouvé sur la chaussée sans son survêtement et ses baskets, il a été transporté à l'hôpital. Pour la procureure de Dunkerque, le jeune garçon a été victime de violences aggravées entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Une nouvelle agression à Grande-Synthe qui interroge. La victime est le cousin de l'un des deux mineurs mis en examen vendredi pour l'assassinat de Philippe Koopman en début de semaine. Placés en détention provisoire, ces deux mineurs âgés de 14 et 15 ans sont déjà connus des services de police. Pour les habitants, ces mineurs doivent être sévèrement sanctionnés.
Qu'ils soient jugés, oui, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier fait.
Ils devraient être sévèrement punis parce qu'actuellement, on n'entend que ça, les agressions des jeunes.
En plus, c'était carrément prémédité. Ils devraient être jugés comme des adultes.
Les deux mineurs ont affirmé avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens.
En ce dernier week-end de vacances scolaires pour la zone C, on le rappelle, entre Paris et Vaucresson, l'autoroute A13 est toujours fermée, au moins jusqu'à demain. Un mouvement de terrain a creusé une importante fissure au niveau de Saint-Cloud. Les automobilistes sont appelés à revoir leurs itinéraires. Les précisions de Mathilde Ibanez avec Laurent Sellarié.
Les franciliens vont devoir s'armer de patience, surtout aujourd'hui, en ce dimanche de retour de vacances scolaires. L'autoroute A13, où plus de 120 000 véhicules passent chaque jour, est fermée à la circulation dans les deux sens, direction Paris, mais aussi direction la Normandie. Cette fermeture de cet axe, eh bien, fait suite à la découverte d'une fissure importante et inquiétante au niveau de la jonction entre l'autopont et le tunnel de Saint-Cloud. Cette interdiction à la circulation situation pourrait perdurer au-delà de lundi si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies, a indiqué de son côté Bison Futé. Puisque cette fissure, eh bien, je vous le disais, elle reste très importante. Elle fait plusieurs mètres de long avec une profondeur de 50 à 80 cm en fonction des endroits. Les travaux ont déjà commencé. Cette situation, en tout cas, est le résultat de multiples mouvements de terrain dont les causes, eh bien, sont en cours de diagnostic. Les autorités, en tout cas, ont indiqué aux automobilistes qu'il va falloir emprunter d'autres itinéraires comme l'A12, la N12, la N118 ou encore l'autoroute A14. Mais attention, cette autoroute est payante.
Ce 21 avril marque les 80 ans du droit des votes des femmes en France, durement obtenu grâce au mouvement des suffragettes. Depuis, la bataille pour l'égalité des femmes et des hommes continue. Pour les Français, si des évolutions sont à souligner, du travail reste à faire. Écoutez-les au micro de Bamba Gay.
Je pense que ça s'améliore, mais je pense que c'est loin d'être le cas. On voit bien dans les tâches ménagères, la répartition des tâches ménagères, il n'y a pas d'égalité homme-femme, je pense pas encore. Et puis les statistiques aussi sont là pour montrer qu'il y a des différences de salaire et de rémunération qui sont importantes. Ça progresse, mais puis aussi dans le monde politique. C'est flagrant quoi, qu'il y ait aussi peu de femmes en responsabilité politique. Quoi. C'est bien dommage. Quoi. C'est bien dommage, la France notamment, par rapport à d'autres pays... Notre pays du Nord, quoi.
Les femmes sont considérées différemment, systématiquement, et faut se battre pour être une femme, alors que pour être un homme, c'est juste être un homme. On voit l'attitude de beaucoup d'hommes vis-à-vis des femmes, il n'y a pas de respect. Quand je marche dans la rue, j'arrive face à un homme, systématiquement, il faut que je m'écarte, par exemple, parce que sinon, il me fonce dessus.
Il y a toujours des préjugés, il y a toujours des personnes qui ont des esprits, on va dire... des anciens esprits. Donc à partir de là, non, je dirais encore en 2024, tout est faussé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales et malheureusement, c'est pas prêt de changer.
Il y a encore du boulot pour que ce soit vraiment égal. Les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes dans des boulots équivalents. Les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire pour être considérées comme les égales des hommes.
Enfin, aux États-Unis, un projet de loi menace d'interdire TikTok. La Chambre des représentants a lancé un ultimatum au réseau social chinois s'il ne coupe pas ses liens avec sa maison mère. Selon des responsables américains, la plateforme de vidéo permettrait à Pékin d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve à 11h30 pour un prochain point. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous, Thierry.
Eh bien, vous savez quoi ? On sera à l'heure, à 11h30, Isabelle. Je m'y engage. Merci, à tout à l'heure. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagne jusqu'à 13h, des fidèles. Vous les connaissez, Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour, Naïma.
Bonjour, Thierry.
Je suis ravi de vous accueillir un dimanche.
Merci.
Kevin Bossuet, professeur d'histoire,
bonjour,
fidèle
Thierry.
Aussi.
Au
combien ? Patrice Sarditi, on ne se quitte plus.
Et on est à l'heure.
Et vous êtes à l'heure, c'est bien, parfait. Denis Deschamps, géopolitologue, fidèle
bonjour,
aussi.
Bonjour Thierry.
Allez les amis, on va commencer, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter ensemble au cours de ces deux heures. On va commencer notre émission avec un sondage maison, un sondage chez ça pour CNews Europe, un journal dimanche. Après les différentes affaires, on évoque, vous le savez, hélas, c'est trop souvent l'ultra-violence chez les jeunes. Il y a eu Viry Châtillon, le meurtre de Philippe à Grande-Synthe. Nous y reviendrons évidemment au cours de cette émission. Regardez ce sondage, on vous a posé une question. Faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h à l'ensemble des communes de France ? Votre réponse est oui à 67%, non à 33%. Avant de retrouver un invité dans quelques instants, Fodé Ndao, qui est président de l'association du club de sauvegarde de Besançon, petit tour de table, rapide, j'ai dit. Naïma.
Ben j'ai tout simplement envoyé de vous renvoyer à la chanson de NTM. Je ne vais pas dire ce que ça veut dire.
Oui.
Laisse pas traîner ton gosse.
D'accord.
Et qui effectivement parlait de ces gamins-là qui traînent, qui ne sont pas tenus. Et aujourd'hui, on voit bien que dans notre pays, on a quelques difficultés liées notamment à la délinquance des mineurs et d'enfants. Et les émeutes de juin 2023 ont été révélatrices de combien aujourd'hui il faut absolument réagir à cette délinquance des mineurs. Des gamins parfois de 11 ans. Ont participé à tous ces vandalismes et ces incendies et à des pillages.
Kevin,
évidemment,
avant d'ouvrir le débat.
On ne peut qu'être pour la place d'un enfant de moins de 13 ans. La journée, c'est en classe.
ou c'est dans un club de foot, une association culturelle, et la nuit, c'est à la maison. Enfin, c'est encore une fois du bon sens. Et à chaque fois qu'il y a un sondage, vous voyez Thierry, les Français font preuve de bon sens et les élites politiques ne suivent jamais. Il y a un problème dans ce pays.
Patrice ?
Il n'y a rien de nouveau. Oui, non. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je souscris parfaitement. Mais
donc, vous faites partie des 67%. Que... Si vous avez interrogé, vous avez dit
oui. Bah oui, bien sûr. À Pointe-à-Pitre, c'est Darmanin qui a déclenché un couvre-feu. À Pontoise, ça a été fait il y a un an pour les moins de 18 ans.
Dans quelques instants, là.
Et puis autour de Strasbourg, plusieurs communes, pour les moins de 16 ans, c'était pour le nouvel an.
Denis ?
Encore une fois, c'est un signal faible envoyé aux politiques. Je pense qu'effectivement, comme disait Kevin, c'est une évidence. Les Français sont extrêmement conscients des réalités. Pour eux, ça va dans le bon sens. Les politiques devraient en tirer les conséquences, ce qui est rarement fait.
Allez, on va aller à Cagnes-sur-Mer, justement, où l'expérience a été lancée. Comment ça se passe? On voit le reportage de Stéphanie Rouquier. Et juste après, on retrouve Fodé Ndao et je lui poserai la question bonne ou mauvaise idée. D'abord, le reportage à Cagnes.
Elle fait partie des villes les plus sûres de France. Cagnes-sur-Mer œuvre quotidiennement pour la sécurité de ses 50 000 habitants avec un dispositif spécifique pour les moins de 13 ans. Depuis 2004, tous les ans, un couvre-feu est mis en place pour ces jeunes non accompagnés de 23h à 6h d'avril à fin octobre.
La raison principale au début, c'est la protection des enfants. Parce qu'il est, selon moi, inadmissible qu'un gosse de 8 ans, 9 ans se balade à 3 heures du matin tout seul dans la ville. Aujourd'hui, on a confirmation, j'allais dire tous les jours, de ce qui se passe dans nos villes. Vous imaginez ? Moi non. Et tout le monde sait que l'éducation du trottoir n'est pas favorable pour les enfants.
Trois secteurs de la ville sont concernés. En cas de constatation de non-respect du couvre-feu, un signalement est transmis au procureur de la République. Mais depuis 2011, aucune interpellation n'a été réalisée. Les jeunes et les parents saluent le dispositif.
Franchement, oui, ça aide trop les parents, là. Ça leur rassure, en fait.
C'est la porte ouverte à tout, hein. Après, voilà, ils font des bêtises et... Beaucoup de bêtises, même parce qu'il y a des effets de groupe, ils s'entraînent entre eux.
Et s'il y a des enfants dehors, bah, ils peuvent se faire kidnapper ou je sais pas.
Tu respectes.
Oui, je respecte.
Cet arrêté de Cagnes-sur-Mer a déjà inspiré d'autres communes dans le Calvados, le Gard ou en Gironde.
Et donc nous sommes avec Fodé Ndao. Bonjour Fodé Ndao, vous êtes président de l'association Club Sauvegarde de Besançon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir. Qu'est-ce que vous pensez de notre sondage sur ce couvre-feu, 67% pour, 33% contre? Quel est votre regard?
Bonjour à tout le monde sur le plateau. Effectivement, on parle aujourd'hui de couvre-feu, directeur du Club Sauvegarde, hein, donc aujourd'hui, c'est qu'un enfant n'a rien à faire dehors. Un enfant n'a rien à faire dehors. Mais je vais aller plus loin quand même. Parce que quand on parle un peu d'une loi ou en tout cas d'une sanction, aujourd'hui, il faut voir l'objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, je pense que c'est par rapport aussi à ce que s'est passé un peu ces derniers temps avec les émeutes, etc. Donc moi, je pense qu'aussi, il faut noter que les émeutes, c'était avant 23h. Donc ça questionne. Et aussi, ça me questionne sur les responsabilités. Donc les responsabilités, forcément, des parents, de l'État, mais l'éducation. L'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est votre affaire, c'est mon affaire. Donc un enfant qui est dehors aussi, il y a la police, mais il y a les gens. Et aujourd'hui, il faut se questionner de la responsabilité de tout le monde. Donc pour moi, un enfant n'a rien à faire dehors, mais il faudra reparler aussi des autres violences donc, qui ont existé par rapport à ce qui s'est passé. Les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, on a vu un collégien se faire agresser. Donc ça me questionne en fait tout ça, de me dire quelle est la différence entre la sanction, la punition. Quelles sont les solutions, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé, qu'on n'a pas oublié, les émeutes. Effectivement, l'État essaye en tout cas de faire quelque chose, mais quelle est notre responsabilité? On parle souvent de la responsabilité des parents. Ces parents, aujourd'hui, peut-être qui sont démunis, qui ont aujourd'hui des problèmes de santé mentale, etc. Je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit, mais je suis dans la réflexion. Je suis dans la philosophie d'aller vers une, en tout cas, solution de sagesse et une solution de dire que l'éducation, c'est l'affaire quand même de tous. C'est nos enfants. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et le village, c'est qui? C'est l'État. C'est le voisin. C'est aujourd'hui, les gens ont peur même de parler peut-être à l'enfant de l'autre. On ne se parle plus le vivre ensemble.
Fodé, Naïm Fadel, une question à vous poser. Fodé, Naïm Fadel, qui est l'une de nos grands témoins, a une question
bonjour,
à vous poser.
Fodé. Alors, bonjour, on est bien d'accord que la première responsabilité de l'éducation des enfants, c'est les parents. Ensuite, nous, dans notre pays, comme vous le savez, puisque vous êtes à la sauvegarde de l'enfance, je crois, si j'ai bien compris.
C'est un club de karaté.
C'est un club de karaté. Mais en tout cas, nous, dans notre pays, on a un maillage au niveau éducation, notamment qui est porté par les conseils départementaux. C'est-à-dire que les parents qui ont des difficultés peuvent demander l'aide et le soutien d'associations et notamment d'éducateurs spécialisés. Mais il faut faire cette demande. Et à côté de ça, ben, vous avez aussi des parents qui sont aujourd'hui démissionnaires. Un gamin de 13 ans ne devrait pas être dans la rue. Et on a vu par rapport, pendant les émeutes, qu'on avait parfois des gamins de 11, 12 ans qui étaient dans la rue et qui ont participé à ces émeutes. Et effectivement, l'État doit réagir par la faute de la faillite des parents.
Oui, oui. Faudé, une dernière réflexion.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, de parler de responsabilité, effectivement, les parents en premier, j'étais en train de dire, en tout cas, le pourquoi des choses. Quelles sont les causes aujourd'hui sur ça? Je pense que vous êtes sensible aux violences qui sont intrafamiliales, donc des bien problématiques sûr, de certains justement familles. Je pense que vous êtes d'accord avec nous. Les causes sont toujours multiples. Il n'y a pas qu'une ou deux. Et dans cette, donc, en tout cas, multiplication de causes, il faudra encore pousser la réflexion de se dire, ben oui, il y a des choses qui existent, mais il faut aller encore plus loin. Le sport. Aujourd'hui, quand on parle, pourquoi je pense au sport? Par exemple, il y a des clubs sportifs qui n'ont pas de créneaux de sport pour pouvoir, par exemple, faire le sport et ils sont jusqu'à 21h ou 22h pour trouver un gymnase. Et donc, il y a la responsabilité, effectivement, des parents, mais j'étais en train juste de dire que l'éducation, c'est l'affaire de tous et que nous tous, nous devons être concernés et de ne pas isoler les choses et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et ensemble, je pense que nos enfants pourront en tout cas suivre le bon chemin et moins de violence en France et dans le monde et que la paix prime en tout cas aujourd'hui sur le monde et en tout cas en France aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre témoignage était particulièrement intéressant, cher Fodé Ndao. Je rappelle que vous êtes président de l'association Club Sauvegarde de Besançon. Les amis, on va prendre la direction d'une ville que je connais bien, la ville de Nantes, avec une polémique qui ne cesse de monter. La métropole n'a demandé qu'un euro symbolique, je le disais, de dommages et intérêts au mouvement écologiste dernière rénovation au lieu des 8200 euros initialement prévus. On le rappelle, l'an dernier, le collectif avait repeint plusieurs bâtiments en rouge, dont la préfecture de Nantes. On voit tout ça avec Jean-Michel Decazes et on sera avec Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique, qui n'est pas très contente de cette décision. Elle nous dira tout. Mais d'abord, le reportage et on ouvre le débat.
La façade de la préfecture de Nantes a retrouvé sa couleur habituelle. En mars 2023, les écologistes de dernière rénovation l'avaient repeinte en rouge pour exiger du gouvernement un plan massif de rénovation thermique des logements. Des images aujourd'hui oubliées.
Je ne m'en souviens pas, non, ça ne me dit rien.
Nantes Métropole avait réclamé à l'association écologiste 8200 euros pour couvrir les frais de nettoyage. Mais la demande devant le tribunal correctionnel a été réduite à 1 euro de dommages et intérêts. La mairie socialiste de Nantes explique que l'angoisse face à l'urgence climatique est légitime. L'opposition LR répond « quand les activistes saccagent, ce sont les Nantais qui payent la facture ». Renaissance à Nantes dénonce une concession inadmissible faite à la violence politique.
Résister est vital, la pollution tue.
Des actions identiques ont eu lieu à Marseille. Dernière rénovation se positionne comme lanceur d'alerte non violent, à visage découvert, et plaide pour son droit à la liberté d'expression.
Pour le cas de la mobilisation pacifique militante, l'action juridique est un sujet politique. Les institutions ne doivent pas porter plainte par automatisme.
À Tours, 5 militants ont été condamnés à 34 000 euros de dommages et intérêts. Et à Lyon, 3 écologistes devront payer 80 000 euros au département et à la préfecture.
Et nous sommes avec Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique. Bonjour Laurence Garnier, merci d'avoir accepté mon invitation. Quelle est votre réaction à cette mesure? Je suppose qu'elle vous met particulièrement en colère, Laurence.
Oui, parfaitement. Les militants écologistes saccagent notre ville de Nantes et ce sont les Nantais qui vont payer les dégradations avec leurs impôts. Vous savez, vous connaissez Nantes, il y a depuis plusieurs années une forme de privilège rouge à Nantes qui fait que notre ville est régulièrement saccagée par l'ultra-gauche sans qu'aucune mesure efficace ne soit prise. Et ben, il y a maintenant un privilège vert qui accorde une immunité à tous ces activistes écologiques qui dégradent la ville et c'est parfaitement inacceptable.
En gros, ce que vous dites, c'est que celui qui dégrade doit tout simplement payer, Laurence.
C'est aussi simple que ça. Celui qui casse, répare. Celui qui dégrade, paye. Le Premier ministre Gabriel Attal l'avait d'ailleurs rappelé dans son discours de politique générale. C'est un point sur lequel je peux être d'accord avec lui. Maintenant, nous attendons les actes et je considère le revirement de la maire de Nantes, parce qu'il s'agit d'un revirement, ce renoncement à demander réparation financière sous la pression d'élus écologistes pour des raisons bassement politiciennes, ce renoncement va faire porter le poids de ces dégradations sur l'impôt du contribuable nantais. Et c'est par ailleurs la porte ouverte à un certain nombre d'actes de délinquance sous couvert d'une cause écologique qui sont parfaitement inentendables. Qui décide aujourd'hui en France qu'une cause est légitime et qui décide au nom de quelle cause on a le droit de dégrader un bien public sans être sanctionné, sans devoir apporter réparation financière?
Comment a été perçue cette décision par les Nantais que vous côtoyez, Laurence Garnier?
Les Nantais sont dans l'incompréhension et dans la colère. Encore une fois, notre ville est régulièrement abîmée, dégradée, saccagée. Ce privilège rouge et maintenant ce privilège vert, il nourrit la colère, il nourrit le mécontentement des Nantais. Les Nantais considèrent, à juste titre, qu'ils n'ont pas à payer en lieu et place de ces perturbateurs. Et quelle que soit la cause écologiste, celle-ci a l'heure de plaire à la maire de Nantes. Il faut qu'on soit, nous, élus, absolument solides face à tous ces collectifs qui, aujourd'hui en France, revendiquent des actions illégales, des actions de délinquance, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, au nom d'une cause écologique qui devrait prétendument passer au-delà de toutes les autres.
Merci Laurence Garnier. Je rappelle que vous êtes sénatrice à l'air de Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Minus Weekend. Réaction, Kevin Bossuet.
Oui, on ne peut qu'être d'accord avec madame la sénatrice. Nantes est devenue au cours des années un pandémonium à ciel ouvert, notamment à cause de la gestion de la maire socialiste Johanna Roland. Genre une montée de l'insécurité, une montée du trafic de drogue, avec une idéologie qui prime sur l'ensemble de la ville. Souvenez-vous, Thierry, il y a eu la fameuse polémique du voyage en hiver, où lors des festivités de Noël, évidemment, on a effacé le mot Noël, donc on est ici dans une forme de wokisme, mais madame la sénatrice l'a très bien rappelé, il y a à Nantes un privilège rouge, un privilège vert, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est de gauche, il y a un blanc-seing, il y a une immunité la plus totale, et en effet, il est scandaleux que ceux qui ont saccagé la mairie ne payent pas. Ce n'est pas aux Nantais, en effet, de payer les exactions d'une minorité d'idéologues qui se revendiquent de l'écologie alors qu'ils desservent l'écologie.
Patrice Demeaux.
Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Kevin, mais alors j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage, les institutions ne doivent pas porter plainte par automatisme. De qui se fiche-t-on là? C'est pas possible. Il y a des dégâts, ces dégâts ils doivent être payés, ils doivent pas être payés un euro alors que les dégâts devraient être rémunérés 8200 ou 8300.
8200 initialement.
Euros. Je veux dire, c'est ridicule. Effectivement, les Nantais vont payer. Bon, on va pas exagérer, hein, ça va faire un mini centime à chaque fois, mais ces Khmers rouges et ces Khmers verts, je veux dire, causent des dégâts absolument considérables. Et il faudrait vraiment, à un moment donné, qu'on fasse venir du bleu, du blanc, mais autre chose, quoi.
Hein, et deux mots rapides, Naïm M. Fadel, avant de
aussi,
marquer une première
c'est
pause.
C'est qu'en fonction des affiliations politiques, vous pouvez dégrader en toute impunité.
Oui, ce qui est ennuyeux,
oui,
c'est que
vous me surprenez.
Comment voulez-vous que les Français aient confiance en leur justice alors que d'autres villes sanctionnent à la mesure des coûts générés, et là en fait ils sont juste sanctionnés pour un euro parce qu'ils auraient reconnu leur responsabilité. C'est absolument ridicule. Et donc en fait, si on veut restaurer un minimum de sécurité et un minimum d'autorité dans ce pays, il faut aussi que la justice, puisque les lois existent, les lois existent pour énormément de choses, notamment pour les parents quand les enfants sont délinquants ou autres, eh bien appliquons ne serait-ce que les lois.
Non, mais en fait, ça s'appelle de la discrimination. Si le collectif avait été de droite, évidemment, le collectif aurait payé. Mais là, c'est la gauche. Il faut leur pardonner.
C'est les futurs artistes.
Mais les amis. Faut pas leur faire de peine, surtout.
Vous êtes en forme en ce dimanche.
Ils sont sensibles.
Vous êtes en forme en ce dimanche. J'ai beaucoup de sujets à aborder. Ça vous dérange pas qu'on marque une pause?
Ah non, avec plaisir, Thierry.
On marque une pause parce qu'on va retrouver, vous savez qui, après? et Ludovic Richard. Et
on va parler politique.
On
est dimanche.
Oui, nous sommes dimanche et Ludovic Richard est là avec Jordan Bardella qui s'est longuement exprimé chez nos confrères et amis du journal du dimanche, La Grande Confession. On sera avec Elodie dans quelques instants. Beaucoup de choses, restez avec nous. C'est sur CNews que ça se passe. A tout de suite. Il est quasiment 11h30, merci de nous accueillir. C'est Mini News Weekend jusqu'à 13h, vous connaissez les horaires du dimanche. On fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot qui est à l'heure.
Le bilan de Gabriel Attal peine à convaincre ce mois-ci. 60% de Français se disent insatisfaits du Premier ministre qui perd 4 points par rapport à mars. Résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Et ce n'est pas mieux pour le président de la République. 72% des Français sondés en sont mécontents. La Chambre américaine des représentants a adopté hier un énorme plan d'aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan. Une enveloppe totale de 95 milliards de dollars. Le texte prévoit 61 milliards pour venir en aide à Kiev, plusieurs milliards également pour Israël afin de renforcer son dôme de fer. Ce plan d'aide doit encore être examiné mardi par le Sénat. Et puis vous avez peut-être suivi la Formule 1 sur Canal+. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Chine sur le tracé de Shanghai. Parti en pole position, le Néerlandais s'est imposé devant le Britannique Lando Norris et son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez. Il s'agit de la 58e victoire en GP pour le leader du championnat du monde. Enfin.
Merci Isabelle. Et on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, Mini News Weekend se poursuit toujours avec nos grands témoins de ce dimanche. Tamim Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi, Denis Deschamps et Élodie Huchard.
Et bonjour.
Quand on dit Élodie Huchard, on parle politique évidemment avec un programme chargé. Je vous ai préparé un petit programme bien sympathique, ma chère Élodie. On va commencer par Jordan Bardella. La Grande Confession, c'est à l'une du journal du dimanche que je vous conseille de lire. Hein. La Grande Confession, c'est son ambition. Jordan Bardella intime aussi, son histoire, ses lectures, sa rencontre avec Macron, le livre qu'il prépare. Beaucoup de choses dans cette interview. Que faut-il retenir?
D'abord, il tente un peu de créer sa légende, Jordan Bardella, parce qu'on lui reproche beaucoup de ne pas assez parler de lui, d'être un peu dénué d'émotion. Donc, il se livre un petit peu, notamment sur son enfance. Il parle un petit peu de ce qu'il apprécie. Il explique, par exemple, que selon lui, le film qui représente le plus la France qu'il aime, eh bien, ce sont les Choristes. Voilà, si vous posiez la question, vous avez désormais la réponse. Et puis, il parle évidemment beaucoup de politique. Il explique que depuis que le Rassemblement national est si haut dans les sondages, eh bien, selon lui, le gouvernement va sur ces thèmes. En revanche, il explique que le gouvernement aurait selon lui une mauvaise lecture parce qu'il ne parle pas assez d'immigration. Il dit aussi qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont responsables de la situation migratoire actuelle. Évidemment, il faut nuancer tout ça. La situation migratoire n'a pas commencé en 2017. Et puis, il parle un peu de l'état de la société. Il évoque un djihadisme par le bas. Il dit que ces jeunes qui tirent sur les forces de l'ordre ne redeviendront probablement jamais des citoyens français pleinement intégrés. Il propose un certain nombre de solutions qu'on avait déjà beaucoup entendues dans la bouche du Rassemblement national. Notamment des sanctions implacables et puis évidemment la suppression des allocations pour les parents de délinquants. Et puis il revient aussi évidemment sur la politique pour les élections européennes. Il explique que s'il est en tête, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. On rappelle qu'il n'a aucun pouvoir de le faire, pas plus qu'un autre Français. Et puis il explique surtout que le président de la République n'aurait aucun pouvoir justement. Il ne fait plus rien. Il explique qu'il y a beaucoup de mots et assez peu en réalité d'actes. On rappelle aussi que les élections intermédiaires sont souvent très défavorable en réalité pour le gouvernement en place. Si on regarde les dernières élections européennes, déjà le Rassemblement national était en tête. Ça n'a pas empêché pour autant Emmanuel Macron d'être réélu. Et puis, il rappelle, mais personne n'en doutait, mais en tout cas il le dit, qu'il veut non seulement conquérir et exercer le pouvoir avec le Rassemblement national.
Ça, on avait bien deviné. Merci.
Oui, mais parfois, il vaut mieux le redire.
Et c'est important de le redire, évidemment. Kevin Bossuet, 29%, on évoquait notre sondage hier. 29% le RN. Hein.
Oui. Non mais Jordan Bardella est jeune, il est dynamique, il incarne une forme de renouveau et il plaît beaucoup à la droite traditionnelle. Et c'est pour ça qu'il est capable de capter cet électorat, ce que n'est pas encore capable de faire Marine Le Pen. Ce qui est intéressant de noter, c'est voir l'ascension du Rassemblement National. Dans les sondages, il est entre 29 et 32%. Et il est en train d'aller récupérer des voix qui, par le passé, lui étaient interdites. Je pense notamment au CSP+, hein. Plus de 20% des CSP+, votent pour le Rassemblement, enfin... veulent voter pour le Rassemblement national. Je pense également aux retraités. Et pendant ce temps, ils continuent
encore son ascension chez les ouvriers et chez les catégories populaires. Pendant longtemps, on a eu une analyse du Rassemblement national qui était la suivante. Le bloc populaire contre le bloc élitaire. Sauf que c'est de moins en moins le cas, puisqu'on se rend compte que les diplômés et que les CSP+ rejoignent de plus en plus cet électorat. La vérité, c'est qu'on est plus que dans un processus de dédiabolisation. Aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu un parti de gouvernement.
Patrice, Denis.
Alors j'ai bien lu très attentivement. Il s'est bâti une image là actuellement bien polissée dans tout le dossier du JDD. Il ne commet pas de lapsus, il ne fait pas une faute. Effectivement, Élodie en parlait au sujet de l'immigration, il n'y a rien de bien nouveau, mais enfin, il le rappelle quand même. Il marque des points, ça c'est un constat, justement, par cette image qui ne bouge pas. Il veut peut-être aller un petit peu vite en prophétisant que certaines listes, parmi lesquelles celle de Marine Maréchal, Marion, Maréchal n'atteindra pas 5%. On sait qu'effectivement, mais c'est pas la première fois qu'il le dit, qu'en cas de grosse victoire, il demanderait le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. En fait, il se veut l'homme de la raison, dont acte, mais il n'est pas le seul.
Denis, très rapidement.
C'est intéressant parce qu'il continue à construire son opération séduction et ça marche. On le voit bien dans toutes les catégories, ça marche assez bien. Moi, ce que je note principalement, c'est qu'il distille une idée, une information que le RN est en capacité de conduire un gouvernement, donc d'exercer le pouvoir. Alors qu'on sait très bien, et on l'a su après, que Jean-Marie Le Pen n'était pas câblé, n'était pas prêt et il ne souhaitait pas spécialement exercer justement la fonction suprême. Marine Le Pen, on commence à se douter maintenant qu'elle n'était pas non plus en capacité, lui justement il essaie de se poser justement en acteur. Je serais dans l'action si j'étais amené à diriger.
Allez, on continue l'actualité politique avec vous Élodie. Cote de popularité d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, ça chute hein?
Oui, alors
selon JDD, évidemment.
Oui, selon JDD, effectivement. Alors le président de la République reste stable. C'est surtout son premier ministre Gabriel Attal qui perd 5 points. Alors quand on regarde en fait dans le détail ce que pensent justement les Français du premier ministre, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles justement relayées par nos confrères du JDD. Parce que d'un côté, si on regarde le positif, les Français certes sont de plus en plus mécontents du premier ministre, mais le croient encore capable de changer les choses. Le JDD nous apprend aussi que dans les premières enquêtes de popularité autour du premier ministre, qui revenait souvent, c'était sa jeunesse et le fait que les Français doutaient de ses compétences. Et bien ces mots-là, dans les sondages, on ne les entend plus, c'est-à-dire que la jeunesse n'est plus un problème visiblement, ni le doute sur ses compétences. En revanche, du côté des mauvaises nouvelles, ce qui lui est reproché, c'est le côté il y a beaucoup d'annonces, mais peu de résultats. Alors ça s'explique par deux choses. Effectivement, ça fait 100 jours maintenant que Gabriel Attal est Premier ministre. C'est là où on lance tout et parfois il y a le fait que ces annonces, elles mettent du temps à être mises en place. Et puis, il y a un problème, et ça d'ailleurs le gouvernement le reconnaît lui-même, parfois de service après-vente, pour parler un petit peu comme ça, parce qu'il y a des annonces qui ont abouti, qui ont été mises en place. Le problème, c'est qu'en fait, au moment de l'annonce, tout le monde en parle beaucoup. Au moment de la mise en place, si les ministres ne vont pas sur le terrain ou s'il n'y a pas ce travail de communication après, bah, finalement, les Français ne savent pas ce qui a été fait.
Des paroles, mais il faut des actes, Naïma. Mais ceci explique cela aussi.
Oui, il a un discours, enfin des déclarations extrêmement fortes, fermes, très régaliennes. Mais c'est vrai qu'on attend les réponses.
On l'a vu hein, avec les agriculteurs. Il a été très présent, omniprésent, etc. Et puis en fait, il y a eu...
Et puis il y a eu des choses importantes qui ont été faites, il faut le rappeler, hein, par rapport aussi à ce qui s'est passé avec l'école, avec cet entrisme. Et il a tout de suite réagi, notamment avec la Baïa, et ça a impacté, puisque on a vu qu'en septembre 2023, on a eu environ 396 jeunes filles qui se sont présentées avec une Abaya. Après discussion, il y en a eu plus que 67 sur 12 millions d'élèves. Hein. Donc, on a des avancées. C'est quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un qui a, je crois, qui connaît maintenant le pays, qui fait un réel diagnostic. Le problème aujourd'hui, c'est la réponse. Et la réponse,
et les Français attendent des
arrêts. Peine à venir.
D'où les résultats. Kevin, on fait un petit tour de table rapide.
Gabriel Attal a beaucoup de talent. Il sait communiquer avec brio. Et surtout, il a un discours...
Non, mais
il a
un discours... Un nouveau fax de...
C'est la vérité. Il a un discours extrêmement ferme. Il a encore
cette semaine parler d'entrisme islamiste. Mmh. C'est quand même quelque chose.
Personne
beaucoup de politiques n'osaient pas prononcer cette expression. Donc on peut le remercier à ce niveau. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'action ne suit pas ou que l'action est trop lente. Moi, je me demande si Gabriel Attal n'est pas quelqu'un qui est empêché. C'est quelqu'un qui appartient à une génération, il fait preuve de lucidité, il comprend véritablement les problèmes des Français, mais au-dessus de lui, il y a évidemment Emmanuel Macron. On sait par exemple qu'il n'a pas pu choisir la ministre de l'Éducation nationale, Madame Belloubet. Bon, j'attends de voir. Je pense que c'est le bilan qui est critiqué et absolument pas l'image et ce qu'il représente au sein de la société française.
Allez, Patrice, c'est Denis Carapino.
Il est indéniable qu'il a dû batailler au sein de son gouvernement, du fait de sa jeunesse, devant des caciques, des personnalités politiques qui avaient fait déjà leur preuve. Mais on sait maintenant que, par exemple, Gérard Darmanin communique avec lui plusieurs fois dans la journée par texto, ce qui ne se faisait pas au début. Donc il avance petit à petit. Alors évidemment, il a fait un certain nombre de promesses. Le problème, c'est que en France, on a l'habitude des promesses. C'est toujours le demain, on rase gratis. Mais ça ne dépend pas uniquement de ce gouvernement. C'était un petit peu le cas avant. On attend les résultats. Les résultats, je pense qu'il est en mesure d'y parvenir si on le laisse faire.
Ah, vous savez qu'il y a un échange de SMS entre Gérald Darmanin
oui.
Il est dans les confidences.
Bien informé, vous,
hein. Il est dans la confidence. Oui.
Patrice est toujours très bien informé.
Mais je vous dirai pas quoi.
D'accord. Denis.
Non, en réalité, on peut pas demander à un Premier ministre, quel qu'il soit, d'avoir un bilan au bout de 100 jours. Ce serait totalement ridicule. Deuxième élément, effectivement, je rebondis sur ce que disait Kevin, c'est qu'en réalité, bon, il y a forcément des rapports de force qui sont importants. Il y a aussi des rapports politiques entre les différents partis. On sait que Bayrou a imposé un certain nombre de ministres. Donc tout ça, le président doit aussi composer avec tout ça. L'autre point important, c'est que Gabriel Attal, il a l'avantage et le défaut de sa jeunesse, c'est qu'il a beaucoup d'énergie. Il a envie de bien faire, il a envie de faire, il est beaucoup sur le terrain, une sortie par jour, mais malheureusement, et c'est là en fait en dernière partie, ce que je conclurai là-dessus, c'est que les Français ont besoin de résultats. Depuis 40 ans, on est dans le bal des promesses, et qu'en réalité, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir de bilan au bout de 100 jours, mais en attendant, les Français en ont tellement ras-le-bol qu'ils ont du mal à discerner clairement les choses, ils veulent vraiment des résultats sur les jeunes, sur ce qui se passe la nuit, sur les attaques tous les jours, ils en ont ras-le-bol.
Naïma, dernier mot.
Je pense qu'avant d'attendre les bilans, c'est déjà dans les réponses. En fonction du diagnostic qu'il fait. Regardez ce qui se passe dans notre pays avec ces drames et cette barbarie et ces gamins qui sont tués par des mineurs. Hein, des mineurs qui sont tués par des mineurs. Aujourd'hui, quelle est la réponse? Bon, il y a eu des réponses plutôt intéressantes, mais excusez-moi, il ne parle absolument pas de la place des parents et de la contrainte qu'on doit avoir envers les parents. La seule chose qu'il dit sur les parents, c'est un travail d'intérêt général. Excusez-moi. Déjà, on n'arrive pas à appliquer le travail d'intérêt général pour les mineurs. C'est du pipi de chat, excusez-moi. Mais il y a des avancées quand même. Mais on l'attendait quand même beaucoup plus fermement sur la question de la parentalité.
Allez, Elodie, on parle de Gérald Darmanin qui est attendu au Maroc. On sait que les relations entre la France et le Maroc n'étaient pas au beau fixe. C'est pour arrondir les angles.
Oui, effectivement, Gérald Darmanin qui est sur place aujourd'hui et demain, il sera à Rabat à l'invitation de son homologue marocain. Son cabinet nous informe que cette visite s'inscrit dans la dynamique des nombreuses coopérations mises en place par la France et le Maroc pour relever ensemble les défis propres à nos deux pays. Plus précisément, il devrait évoquer notamment la sécurité, les mobilités ou bien l'administration territoriale. Ça, c'est pour le volet un petit peu plus politique. Il va également rencontrer les représentants de la communauté d'affaires franco-marocaine et la communauté française sur place, que font souvent les ministres quand ils se déplacent. Effectivement, vous le disiez, il y a eu des relations parfois tendues entre le Maroc et Gérald Darmanin, notamment quand il les accusait de ne pas nous délivrer les fameux laissez-passer consulaires pour pouvoir renvoyer les clandestins au Maroc. Alors on nous dit que la relation est un peu plus apaisée, mais évidemment la crise migratoire reste quand même un sujet préoccupant et surtout tendu forcément entre les deux pays.
Et au Maroc, on nous reprochait souvent d'être plus proche de l'Algérie que du Maroc aussi.
Aussi.
Aussi. On va terminer l'aspect politique avec, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est près de Lyon, le maire de Mions qui vient tout simplement d'annoncer sa démission. Claude Cohen explique être régulièrement victime d'insultes antisémites, notamment depuis l'attaque du 7 octobre en Israël. Il était l'invité de l'émission d'Eliott Deval ce matin. Il s'est confié à Eliott dans l'heure des pros. Écoutez-le.
J'ai été la première fois déposer plainte parce qu'on a voulu me décapiter. La personne a été entendue 2 heures en gendarmerie, libérée, on lui a fait un rappel à la loi. Un jour, on a fait un dessin de moi ratatouille, c'était le rat, avec tous les dessins que vous connaissez, tous les dessins qui venaient des propagandes nazies. J'ai été déposé plainte, j'ai pris un avocat, la personne a été condamnée à 3 mois de prison, et ensuite, non-lieu, parce qu'il y a eu une erreur de procédure. Comme je m'apercevais que la justice ne suivait pas, dans la mesure où ces gens-là n'avaient que des rappels à la loi, systématiquement, quand j'avais des insultes, des propos antisémites, je ne voulais plus y aller.
C'est terrible, hein, ce témoignage, Patrice.
C'est effrayant, mais ça me surprend pas. Bon, c'est un maire qui est découragé, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'il y a quand même 40 démissions de maires chaque mois.
Mais oui, c'est énorme.
Chaque mois, c'était le cas l'an dernier. Là, il est particulièrement découragé parce qu'il a eu une absence d'écoute de la métropole présidée par un écologiste. Et il y a 2 ans, il y avait 45 maires sur les 59 de cette métropole qui dénonçaient la gouvernance, justement, de cette majorité écologique. Alors, la préfète qui le carence, si je puis dire, en le privant de la compétence de délivrance des permis de construire, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il a bataillé parce qu'il pensait que cette carence était sans raison. Et il a parfaitement raison, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, il est découragé, il en a marre. Plus les insultes, antisémites. Alors là, c'est le pompon.
Kevin ?
La société va très mal. L'antisémitisme subit une flambée qui devrait effrayer n'importe qui. Beaucoup de Juifs décident d'ailleurs de quitter la France pour aller en Israël, qui est un pays en guerre, mais ils se sentent plus en sécurité qu'en Israël. En France, ça en dit long. Le fait qu'un maire, parce qu'il est juif en partie, décide de quitter sa fonction, mais ça doit nous interroger. Et moi, quand j'ai vu cette affaire, ça m'a fait penser à ce qu'a subi Boris Venon. Vous savez, c'était l'adjoint socialiste au maire des Mureaux qui avait été victime de racisme anti-blanc et d'homophobie et qui avait décidé de quitter son poste. C'est-à-dire que maintenant, le combat politique, ce n'est plus un échange d'idées. On s'en prend à la personne, on s'en prend à sa dignité, on s'en prend à sa judéité, à son homosexualité, à sa couleur de peau. Et quand je vois une partie de la gauche ignorer ce genre de choses, nous raconter que ça n'existe pas, mais où est-on ? J'ai aussi quelques collègues juifs enseignants qui, quand ils vont dans des salles de classe, ne se sentent pas rassurés, avec parfois une envie de jeter l'éponge et de démissionner. Donc quand allons-nous dans ce pays nous alerter et surtout nous interroger sur les causes ? C'est bizarre, ça concerne les juifs, les homosexuels. Quelle est la cause de tout cela ? Peut-être un communautarisme exacerbé ? Peut-être un islamisme aussi important, puisque l'antisémitisme aussi naît de l'islamisme. Donc l'heure est grave. Je pense que les voyants sont au rouge et il faut un sursaut parce que le pays de la République, la France, est en train de devenir un pays qui s'engouffre de plus en plus dans les ténèbres du communautarisme et du rejet de l'autre.
Naïm Fadel.
Non, mais je pense que c'est extrêmement, extrêmement grave parce qu'avant de chercher d'autres arguments qui font que ce maire démissionne, il démissionne surtout parce qu'il a eu des menaces et des insultes antisémites. Il faut nommer les choses.
Et c'est pas le premier. On en a parlé très souvent sur ce plateau.
Aujourd'hui, en France, sachant ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi, je suis terrifiée. Moi, je pensais que dès aujourd'hui, l'ensemble des journalistes, l'ensemble des médias parlerait de cette affaire. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et effectivement, il l'a dit. Il a dit qu'il a porté plainte quand il y allait, parce que le pauvre, il était tellement, tellement dans le fatalisme qu'il ne portait pas à chaque fois plainte. Ce monsieur, aujourd'hui, il n'a pas eu la justice rendue par rapport à ce qu'il a subi. Vous vous rendez compte ? C'est extrêmement grave. Et ça veut dire open bar. Continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'État de droit, c'est la République qui laisse ça. Qui est des communautarismes ? Qui est des islamistes ? Qu'il y ait des antisémites, l'État ne doit pas laisser faire. Il doit être, dès le premier acte, dissuasif avec Excusez-moi, je m'arrête là. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays.
Denis Deschamps.
Les voyants sont au rouge, mais depuis longtemps, Kevin. Depuis longtemps, malheureusement. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer la bêtise, ce qui, effectivement, vous soulevez le communautarisme. Mais il y a aussi la bêtise. Moi, je connais bien
pas mal de maires de petits villages ou de moyennes villes, je suis navré. Mais
c'est H24. Hein,
Exactement, ils reçoivent des lettres de menaces sans arrêt, bien évidemment anonymes, vous doutez bien. Pour le moindre problème, c'est le maire qui est en front. Donc effectivement, je comprends, et en fait, Patrice a rappelé les chiffres pour poser le débat, c'est qu'en réalité, il y a un ras-le-bol par rapport à la bêtise. Alors effectivement, l'antisémitisme est un sujet grave. Lutter contre les idiots qui pointent du doigt pour des problèmes de couleur, de race, c'est totalement idiot aujourd'hui. Mais en plus, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'être maire, vous avez du pénal, parce que ça comporte aussi des vraies responsabilités dans la commune, notamment avec les enfants, notamment avec les cantines. Vous avez aussi énormément de responsabilités pour cette espèce de tout petit noyau de vivre ensemble. Et en fait, le maire, il a un boulot, je l'ai dit combien de fois ici. Quelle difficulté que d'être maire, parce qu'en réalité, c'est lui qui est au front, qui est connu de tout le monde. Donc vous avez le problème des coqs qui chantent avec le Parisien qui ne supporte pas ça le matin. Vous avez tout un tas de choses à régler dans des villages. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que dans les 40 démissions par mois, il y a aussi tout ça.
Non, mais c'est plus que de la bêtise, c'est de la haine. C'est de la haine anti-juive, il faut le dire. Non, si ce n'était que de la bêtise, à la rigueur, voilà. Mais là, il y a des gens dans notre pays qui détestent les juifs. Plus profond de même. Et c'est pas normal qu'un élu soit obligé de démissionner.
Les amis,
c'est quoi ce pays?
Les amis, c'est la mi-temps.
Ça a toujours existé.
Les amis, c'est la mi-temps. Les amis, c'est la mi-temps. Merci Élodie. Noémie Schulz prendra votre place dans quelques instants. C'est la mi-temps de BNews Weekend. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Rebonjour, il est midi, merci de nous accueillir, c'est BNews Weekend partie 2, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, ils sont en grande forme ce dimanche, je vous les représente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre deuxième heure. À la une, on reviendra sur cette expérimentation prévue par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, loi qui prévoit que dans certains cas, le port d'une arme de catégorie D pourra être sanctionné d'une amende. Quel est le sens de cette mesure? Noémie Schulz nous dira tout, comme d'habitude, on en parle et on ouvre le débat. Dans BNews Weekend, on ira encore à Grande-Synthe, 4 jours après la mort de Philippe. Il y a eu une nouvelle agression, il s'agit d'un cousin de l'un des suspects. On sera sur place avec Charles Pousseau et Pierre Emco. Enfin, on terminera par une note plus légère dans cette actualité un peu lourde, il faut bien le reconnaître. Incroyable mais vrai, Paris vient d'être classé seconde ville d'Europe où il fait bon vivre. C'est un sondage canadien. Ah. Je suis persuadé qu'autour de cette table, mes grands témoins réagiront. Ne manquez pas à la fin de l'émission, ça promet. Mais tout de suite, on fait un tour de l'info complet avec Isabelle Piboulot, que je resalue, Isabelle.
Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Pour lutter contre la délinquance, le ministre de l'Intérieur a ordonné l'instauration dès demain d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, une mesure déjà en application à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Depuis 20 ans, les jeunes de moins de 13 ans ont l'interdiction de sortir seuls la nuit, leurs parents s'exposant à une amende. Reportage de Stéphanie Rouquier.
Elle fait partie des villes les plus sûres de France. Cagnes-sur-Mer œuvre quotidiennement pour la sécurité de ses 50 000 habitants avec un dispositif spécifique pour les moins de 13 ans. Depuis 2004, tous les ans, un couvre-feu est mis en place pour ces jeunes non accompagnés de 23h à 6h d'avril à fin octobre.
La raison principale au début, c'est la protection des enfants. Parce que il est, selon moi, inadmissible qu'un gosse de 8 ans, 9 ans se balade à 3 heures du matin tout seul dans la ville. Aujourd'hui, on a confirmation, j'allais dire tous les jours, de ce qui se passe dans nos villes. Vous imaginez ? Moi non. Et tout le monde sait que l'éducation du trottoir n'est pas favorable pour les enfants.
3 secteurs de la ville sont concernés. En cas de constatation de non-respect du couvre-feu, un signalement est transmis au procureur de la République. Mais depuis 2011, aucune interpellation n'a été réalisée. Les jeunes et les parents saluent le dispositif.
Franchement, oui, ça aide trop les parents, là. Ça leur rassure, en fait.
C'est la porte ouverte à tout, hein. Après, voilà, ils font des bêtises et beaucoup de bêtises, même parce qu'il y a des effets de groupe, ils s'entraînent entre eux.
Et s'il y a des enfants dehors, bah, ils peuvent se faire kidnapper ou je sais pas.
Tu respectes.
Oui, je respecte.
Cet arrêté de Cagnes-sur-Mer a déjà inspiré d'autres communes dans le Calvados, le Gard ou en Gironde.
Le ministère de l'Intérieur a communiqué de nouvelles statistiques concernant la violence en France. Vous allez le voir, les chiffres de 2023 démontrent une augmentation de la délinquance et de l'insécurité. On fait le point avec Noémie Hardy et Dounia Tengour.
L'année dernière, le nombre de victimes d'homicide était de 1010 victimes contre 823 en 2020. En 2023, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus augmentent fortement dans le cadre familial, plus 9% contre 4% hors du cadre familial, une croissance qui s'observe depuis des années.
Il y a un retournement de tendance accéléré et intensifié, avec des gens plus jeunes, plus violents, plus souvent condamnés qu'on ne le dit, mais très tardivement. En fait, la justice, elle n'est pas laxiste, elle est lente.
Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, la part de délinquance commise par les étrangers est en hausse depuis 2016. 38% pour les cambriolages en 2023 contre 26% il y a 8 ans. 40% des vols dans les véhicules contre 18%. 31% pour les vols violents sans armes contre 21%. En France, la plupart des indicateurs de la délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale sont en hausse en 2023, mais en ralentissement par rapport à l'année précédente.
Direction les États-Unis, où la Chambre des représentants a adopté hier un énorme plan d'aide en faveur de l'Ukraine, d'Israël et de Taïwan. Une enveloppe totale de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par Joe Biden. Dans le détail, 61 milliards sont prévus pour venir en aide à Kiev. Les détails de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
Il aura fallu attendre un an et demi pour que les États-Unis accordent une nouvelle aide à l'Ukraine. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est le soulagement à Kiev, mais aussi à Washington et chez les alliés, car ce vote, eh bien, il intervient à un moment où l'Ukraine est en difficulté dans cette guerre. Ces fonds accordés par le Congrès américain vont donc permettre l'achat de systèmes de défense anti-aérien, car on le sait, Moscou a l'avantage dans les airs avec ses attaques de drones et ses missiles. Ce vote, il permet aussi à Joe Biden, eh bien, de saisir et de vendre les actifs russes. Ils vont permettre, eh bien, le financement de la reconstruction en Ukraine. Alors, Volodymyr Zelensky aura patienté des mois et subi les querelles partisanes au Congrès pour obtenir enfin cette assistance qui, selon lui, va sauver des milliers et des milliers de vies. Quant au président américain Joe Biden, eh bien, il se félicite de ce vote. Selon lui, eh bien, il envoie un message clair du leadership américain dans le monde. C'est évidemment aussi une victoire politique pour Joe Biden en pleine campagne pour sa réélection.
Et puis toujours dans l'actualité internationale, ce crash de deux hélicoptères des forces japonaises d'autodéfense. Les appareils participaient à un exercice nocturne de lutte anti-sous-marine. Ils se sont écrasés au large des îles Izu hier soir. Un membre d'équipage a été retrouvé mort. 7 autres sont toujours portés disparus. À ce stade, la cause de l'accident reste inconnue. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. C'est à vous Thierry.
Merci, le rendez-vous est pris, ma chère Isabelle. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagne depuis une heure déjà. Naïma Mfadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi, Denis Deschamps. J'accueille avec beaucoup de plaisir Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice. On va commencer avec vous. Bonjour, Noémie, on va commencer avec vous. Évidemment, on va revenir dans quelques instants sur cette expérimentation prévue par la loi d'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur. Le port d'armes de catégorie D pour être sanctionné d'une amende. On voit tout ça avec Mathilde Ibanez et on décrypte. Et vous allez tout nous dire, évidemment, Noémie, juste après.
Pour aider au mieux les forces de l'ordre et faciliter leur travail de terrain, les policiers et gendarmes ont depuis mercredi un nouvel outil à leur disposition, leur permettant de réprimer immédiatement une personne porteuse d'une arme de catégorie D, comme une matraque, lacrymogène ou encore un couteau poignard, avec une amende de 500 euros et la destruction immédiate de l'arme sans forcément l'emmener en garde à vue et entamer des poursuites pénales.
Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle est une des réponses judiciaires possibles à la commission de certaines infractions et ne prive en rien le parquet d'engager des poursuites judiciaires s'il estime opportun, en lieu et place de l'amende forfaitaire délictuelle. Un placement en garde à vue et des poursuites pénales peuvent ainsi être décidés dès lors que la nature de l'arme, le profil de l'auteur ou toute autre circonstance particulière le justifie.
L'application de l'expérimentation a été prévue par l'article 25 de la loi du 24 janvier 2023, portée par le ministre de l'Intérieur puis adoptée par le Parlement à une large majorité.
L'amende forfaitaire délictuelle s'inscrit dans une logique de répression accrue de ce type de comportement. Il ne s'agit donc aucunement de baisser les bras, bien au contraire.
Il s'agit d'une expérimentation qui pourra conduire à un amendement de la doctrine d'emploi communiquée au parquet et aux forces de l'ordre par le ministère de l'Intérieur.
Alors, on sera dans quelques instants avec Christophe Planty, secrétaire général CFTC Police. On lui posera la question sur cette mesure. Cette mesure, très clairement, très logiquement, vise à renforcer tout un dispositif déjà pour les forces de l'ordre, Noémie. Hein.
Oui, on a pu avoir le sentiment que c'était une preuve de laxisme, qu'en gros, quelqu'un qui allait être interpellé en portant un couteau sur lui, avant, il aurait été forcément placé en garde à vue et le parquet aurait décidé des poursuites. On dit, il va avoir une simple amende et c'est circulé, il n'y a rien à voir. En fait, c'est la logique inverse. En tout cas, c'est dans cet esprit que la loi, encore une fois, la loi votée, présentée par Gérald Darmanin et votée par l'ensemble des parlementaires avait été adoptée et qui prévoyait cette expérimentation. L'idée, c'est de donner un outil supplémentaire aux forces de l'ordre qui, dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, pourraient contrôler des personnes et, selon le profil de la personne contrôlée, décider que, dans un cas, il peut être plus intéressant de lui donner une amende de 500 euros et de récupérer immédiatement l'arme, un couteau, une bombe lacrymogène qui sera ensuite détruite, plutôt que de l'interpeller et le placer en garde à vue. Mais là encore, ça sera vraiment du cas par cas. Et si vous avez une personne qui a des antécédents judiciaires, qui a l'air fragile psychologiquement, qui a l'air louche, qui déambule avec un couteau sur elle, cette personne, évidemment, sera interpellée et placée en garde à vue. En revanche, si en amont d'un match de football où il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters qui se pressent aux abords de ce stade, qu'il y a des contrôles qui sont effectués et qu'un de ces supporters porte sur lui un couteau, mais qu'il n'est pas connu, qu'il ne semble pas être venu pour s'en prendre à d'autres personnes, dans ces cas-là, le couteau bien sûr sera confisqué, il y aura une amende et les policiers ont toujours et les gendarmes ont toujours la possibilité de décider du placement en garde à vue. Donc je crois qu'il était juste important de poser les choses, de dire que c'est un outil, que ça répond aussi à une demande du terrain, des forces de l'ordre, de la préfecture de police de Paris et notamment du parquet de Paris en prévision des Jeux Olympiques avec, on sait, beaucoup de foule qui sera présente à certains endroits, des contrôles qui auront lieu et donc de permettre aussi une forme de fluidité. Mais il faut compter sur l'expertise dont feront preuve les forces de l'ordre.
Et bien justement, on va interroger Christophe Plantis. Merci beaucoup. C'est important d'avoir ces précisions parce qu'évidemment, il y avait une petite ambiguïté sur la chose. Bonjour Christophe Plantis. Je rappelle que vous êtes secrétaire général CFTC Police. Que pensez-vous de cette mesure, très concrètement, vous qui êtes sur le terrain ?
Bonjour Monsieur Cabanne et bonjour à toute l'équipe. Bah écoutez, c'est une mesure, une expérimentation qui est particulièrement pragmatique. Effectivement, ça répond à la demande du terrain. La garde à vue, c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, dans la pratique, c'était souvent évité. Une convocation suivait la découverte de l'arme lorsqu'il n'y avait pas un danger imminent. Le parquet avait le loisir de prendre une décision purement symbolique, rappel à la loi ou autre, et l'arme était détruite. Là, effectivement, c'est pragmatique. On va pouvoir taper là où ça fait mal, au portefeuille. On va pouvoir faire rentrer de l'argent dans la caisse. Pourquoi pas regarder les choses de ce côté-là. Les policiers vont de plus en plus être dotés de terminaux pour pouvoir permettre donc aux contrevenants ou délinquants, puisque je ne sais pas vers où on s'en va, selon les cas, ben effectivement, l'argent sera perçu et ça sera efficient. Donc oui, c'est pragmatique et ça convient à la volonté des policiers, surtout pour leur permettre d'avoir plus de... ça va dans le sens de la simplification et ça va donner l'opportunité aux enquêteurs, aux OPJ, de traiter plus sereinement d'autres dossiers bien plus intéressants. Ça va soulager aussi l'activité du parquet.
Et c'est pas justement, et Noémie a eu raison de le souligner, c'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire, et vous le soulignez, c'est important cette mesure. Hein.
Bien sûr, donc l'opportunité de la garde à vue reste du domaine de l'OPJ. Lorsque l'individu, Noémie l'a très très bien dit, l'OPJ conserve l'opportunité du placement en garde à vue lorsque le cas sera, enfin l'individu. Le porteur, le délinquant, vous pouvez lui donner tous les noms, lorsque cet individu devra être placé en garde à vue, il le sera, et le parquet aura, lui, toujours l'opportunité de lever cette garde à vue. Donc, en fait, c'est un moyen supplémentaire, c'est bien une expérimentation pragmatique.
Merci beaucoup, Christophe Plantis, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général CFTC Police. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est important de rappeler parce qu'évidemment, on pouvait penser qu'il y avait une petite ambiguïté et loin de là. Loin
oui,
de là,
oui, on pouvait donner l'impression que. Que ça allait au contraire faciliter la vie des personnes qui se déplacent avec une arme de poing de catégorie D sur elles. C'est pas la philosophie du texte en tout cas.
Vous avez raison, et c'est important. Patrice.
Noémie et M. Plantis m'ont rassuré parce que j'avais vraiment l'impression qu'on avait baissé le curseur. Il y avait garde à vue, ce qui quand même est extrêmement important et pénible pour une personne qui se retrouve dans ces conditions avant, et puis que d'un seul coup, il pouvait s'en sortir avec une amende. Mais à partir du moment où Noémie et M. Plantis ont expliqué qu'il y avait du cas par cas, ça me rassure un petit peu, surtout à un moment où on s'en souvient, ces derniers mois, ça a quand même été catastrophique au niveau des attaques au couteau. Là, les enfants dans le parc d'Annecy en juin dernier, l'affaire Thomas à Crépol en novembre, ce malheureux Algérien à Bordeaux qui manifestement ne suivait pas le ramadan et qui a également été poignardé, et puis plus récemment une fillette en Alsace. Ça commence à bien faire. Une amende de 500 €, je crois que ça peut empêcher des gens de se balader avec un couteau.
Denis, dernier mot.
Oui, ça risque d'être dissuasif, donc ça va être intéressant. Moi le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est voir un petit peu comment tout ça va s'installer sur le territoire, et est-ce que par exemple les policiers vont se mettre devant les collèges et lycées. On le sait qu'il y a des armes blanches qui traînent dans certains collèges et dans certains lycées. Je pense que là, ça pourrait être dissuasif pour les parents si les policiers font des enquêtes de ce côté-là. Quoi.
Après, les policiers ne vont pas pouvoir contrôler 100% de la population. C'est pour ça que quand on dit on ne pourra pas empêcher toutes les attaques au couteau, quelqu'un qui se promène dans l'oreille avec un couteau dans sa poche et qui s'en prend à quelqu'un, à moins de mettre un policier derrière chaque citoyen, c'est impossible. Mais dans des contextes particuliers, encore une fois, de manifestations, de grands rendez-vous sportifs, on parle notamment des JO, là, c'est des endroits où les forces de l'ordre sont très présentes, vont effectuer des contrôles. Et là, s'il tombe sur quelqu'un qui a une arme de catégorie D sur lui, tout de suite, bien sûr, d'abord la confisquer et la détruire, et en plus avoir cette amende-là. Tous les cas que vous avez cités, toutes ces personnes-là, si elles avaient été contrôlées en amont avec le couteau qu'elles avaient sur elles, elles n'ont pas été contrôlées. Voilà, c'est le problème, encore une fois. Si elles avaient été contrôlées, avec des comportements psychologiques visiblement particuliers, un comportement qui aurait attiré l'attention, évidemment, dans ces cas-là, on peut imaginer que les policiers auraient décidé d'un placement en garde à vue.
Merci, Noémie, pour toutes ces précisions. Allez, on va retourner à Grande-Synthe, dans le Nord, avec une nouvelle agression, hélas. 4 jours après la mort de Philippe, il s'agit d'un cousin de l'un des suspects. Des vêtements lui ont été dérobés. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital. Son pronostic n'est pas engagé. Une enquête, bien sûr, est ouverte. On sera dans quelques instants avec notre équipe qui est sur place. Mais d'abord, les dernières informations avec Sarah Varny et Pierre Emco.
Un adolescent de 15 ans a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Grande-Synthe. Retrouvé sur la chaussée sans son survêtement et ses baskets, il a été transporté à l'hôpital. Pour la procureure de Dunkerque, le jeune garçon a été victime de violences aggravées entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Une nouvelle agression à Grande-Synthe qui interroge. La victime est le cousin de l'un des deux mineurs mis en examen vendredi pour l'assassinat de Philippe Kopman en début de semaine. Placés en détention provisoire, ces deux mineurs âgés de 14 et 15 ans sont déjà connus des services de police. Pour les habitants, ces mineurs doivent être sévèrement sanctionnés.
Qu'ils soient jugés, oui, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier fait.
Ils devraient être sévèrement punis parce qu'actuellement, on n'entend que ça, les agressions des jeunes.
En plus, c'était carrément prémédité. Ils devraient être jugés comme des adultes.
Les deux mineurs ont affirmé avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens.
Je vous propose d'écouter tout de suite la maman de cet adolescent agressé à Grande-Synthe qui s'est confiée à nos confrères de RTL.
Je suis dévastée. Parce que quand je vois que mon fils a été retrouvé nu, et quand on l'a déposé devant chez moi et qu'il est monté tout nu, et qu'il s'est écroulé sur le sol de la cuisine, du salon, pardon, quand il est arrivé, et là, ma fille, elle a hurlé, et elle a dit « Maman, réveille-toi, regarde !» Et mon fils, on l'a retrouvé dans un état pitoyable, plein de sang, tout nu, sans vêtements, sans téléphone portable. Franchement, c'est... moi, je suis dévastée, vraiment. Et hier, Noah, il dit, bah, maman, regarde, il y a un copain, il me demande pour faire, un tour en voiture. Il me dit, t'inquiète, ça ne craint pas. Je dis, ouais, mais Noah, je n'ai pas confiance. Tu sais très bien. Et il me dit, mais non, maman, t'inquiète pas. Alors, vers 23h, il vient chercher mon fils en bas de chez moi. Et en fait, ce garçon-là, en fait, il s'est mis à... Bah, mon fils est monté dans la voiture, il a mis sa ceinture de sécurité. Et il s'est mis à rouler à vive allure. Ça veut dire, mon fils, il m'a dit, maman, j'ai eu une peur. Il m'a dit, j'ai reçu un pressentiment en moi. Il m'a dit, tellement qu'il roulait vite, je voulais ouvrir la portière de la voiture et sauter, mais j'ai pas eu le courage. Et en fait, il a ramené mon fils près d'Emmaüs, dans un endroit où il n'y a pas de passage du tout. C'est comme une forêt. Et il a fait un frein à main, il a jeté mon fils de la voiture et il y a six personnes qui lui ont sauté dessus. Une fois qu'ils ont tabassé mon fils, ils ont vu qu'il ne bougeait pas, ils l'ont laissé comme ça. Mon fils, il est resté par terre pendant, on va dire, une bonne heure à peu près.
Il est terrible, hein, ce témoignage de cette maman. On va y revenir dans quelques instants, mais on va prendre la direction de Grande-Synthe, je vous le disais. On va retrouver Charles Pousseau et Pierre Emco. Bonjour Charles. Donc, nouvelle agression à Grande-Synthe. On vient d'écouter le témoignage poignant de la maman de ce jeune homme. Une enquête a été ouverte, le dispositif de police a été renforcé. Et le maire de la commune appelle à ne pas céder la psychose, Charles.
Oui, c'est ça. Et effectivement, des forces de l'ordre plus présentes ces dernières 24 heures ici à Grande-Synthe après cette agression qui est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, celle de cet adolescent de 15 ans, le cousin de l'un des deux mis en cause dans l'agression mortelle de Philippe. On ne connaît pas encore la raison réelle de cette agression, si c'est une vengeance ou non. Le maire, lui, n'a pas voulu commenter cet acte. Il appelle néanmoins une nouvelle fois au calme. Il demande à ses habitants de ne pas faire justice eux-mêmes et de rester dignes. Ce sont ses mots. En fait, la mairie craint, comme vous le disiez, qu'une psychose en fait règne ici dans la ville, et nous avons justement rencontré plusieurs commerçants qui nous confiaient que les habitants ont effectivement peur, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter de vivre. Les parents sont surtout inquiets pour leurs enfants. Un jeune nous confiait même que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, ce sont des choses qui sont déjà arrivées par le passé. Donc tout le monde souhaite maintenant la même chose, un retour au calme le plus rapidement possible.
Merci beaucoup Charles Pousseau depuis Grande-Synthe, qui est accompagné par Pierre Emco. Kevin Bossuet, c'est terrible ce qui se passe à Grande-Synthe. Et évidemment, le maire a raison, il ne faut pas sombrer dans la psychose, mais enfin, il y a une espèce de loi des séries là. C'est...
Bien sûr.
Et peut-être de règlement de compte, puisqu'il y a des liens entre la famille. Hein.
C'est terrible, puisqu'on a l'impression que de plus en plus, la violence physique est en train de devenir l'instrument de la régulation sociale. Plus personne ne croit, ou de moins en moins, en la justice, aux institutions. Et finalement, quand l'État est aussi affaibli, quand l'ordre républicain est aussi affaibli, il y a un autre ordre qui le remplace. Mais c'est quel ordre ? C'est parfois, dans le trafic de l'ordre, l'ordre criminel, parfois l'ordre moral aussi, ou parfois l'ordre clanique, en effet, des clans qui défendent les leurs. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a plus ce respect de l'universalité de la vie. La vie, certaines vies, pour certains, comptent plus que d'autres. Et on le voit dans cette conception clanique et communautaire des choses. Quand vous êtes dans un groupe, la vie du groupe compte plus que la vie de celui qui est à l'extérieur. Et on l'a vu notamment avec cette jeune fille voilée qui a été tabassée parce qu'elle avait ôté son voile. À partir du moment où elle s'était distancée des règles de la communauté, elle s'en était éloignée. Et là, forcément, il y a la loi du talion de l'honneur qui est venue sur le devant de la scène. On est dans une société de plus en plus de l'anomie. Et moi, ça me fait peur, puisqu'on n'est plus côte à côte, on est face à face, et ça a des conséquences dévastatrices sur la sécurité dans notre société.
Ça interroge en fait l'état de droit aussi. Est-ce qu'aujourd'hui l'état de droit est toujours en capacité de nous protéger, de nous sécuriser et de rendre justice ? Parce que sinon, effectivement, on peut risquer d'avoir des personnes qui veulent faire eux-mêmes justice.
Allez, on va marquer une dernière pause dans ce Midi News Weekend. Trois hommes, une femme sur ce plateau. Naïma.
Oui.
Et juste après, on parlera. Il y a 80 ans, les Françaises obtenaient le droit de voter et d'être élues. Ouais. Pour ça que je le dis.
Voilà.
Bravo. Voilà. Voilà.
Merci, messieurs.
Voilà.
Vous avez tardé un petit peu, mais bon.
On en parle juste après. Allez, à tout de suite. « Décidément, le temps passe très vite en ce dimanche matin. Beaucoup de sujets, des grands témoins en grande forme. C'est Mini News Weekend, la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Mais tout de suite, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot. À 12h.
À Grande-Synthe, un mineur de 15 ans a été victime de violences aggravées dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit du cousin d'une des personnes mises en examen pour l'assassinat de Philippe Koopman, battu à mort mardi. L'adolescent a été retrouvé nu en pleine rue. Il souffre désormais de blessures, entraînant une ITT supérieure à 8 jours. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Aux États-Unis, un projet de loi menace d'interdire TikTok. La Chambre des représentants a lancé un ultimatum au réseau social chinois. S'il ne coupe pas ses liens avec sa maison mère. Selon des responsables américains, la plateforme de vidéos permettrait à Pékin d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Enfin, au Pas-de-Calais, la 37e édition des rencontres internationales de Berck a débuté hier. Près de 500 cerfs-volants flotteront dans le ciel de la Côte d'Opale tout au long de la semaine, durant laquelle des centaines de milliers de spectateurs sont attendus. L'événement s'achèvera dimanche prochain.
Merci Isabelle. Allez, dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Toujours avec moi, Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi et Denis Deschamps. Sujet sur lequel je souhaite vous faire réagir. Je vais m'adresser qu'à Naïm Fadel. Voilà, messieurs.
Mais c'est du sexiste.
Mais je vais m'adresser qu'à Naïm Fadel. Il y a 80 ans, les Françaises obtenaient le droit de voter et d'être élues et devenaient des citoyennes à part entière, messieurs. Un premier pas vers l'égalité des sexes et le début d'un long combat. Retour sur cette date historique avec Bamba Gay et Sarah Varni. Et on ouvre le débat juste après. N'est-ce pas, Naïma ?
Oui.
Le 21 avril 1944, quelques mois avant la fin de l'occupation allemande, les femmes devenaient électrices et éligibles. C'est grâce à l'ordonnance du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire français à Alger, que les femmes obtenaient le droit de vote il y a tout juste 80 ans. Un an plus tard, le 29 avril 1945, les Françaises déposaient pour la première fois leur bulletin dans l'urne pour les élections municipales. Dans les bureaux de vote, l'enthousiasme était important. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont fiers de ce droit acquis.
Quand je suis née, les femmes n'avaient pas le droit de vote. J'ai voté dès que j'ai pu, dès que j'étais majeure. J'ai toujours voté tout au long de ma vie, à tous les votes possibles.
On a perdu beaucoup de temps, parce que les femmes devraient avoir le droit de voter depuis toujours. Parce que je suis purement et simplement pour l'égalité des sexes.
Ça a impacté plusieurs pays européens à la même époque. Et moi, je viens d'Italie. Et le vote des femmes était en 1946. Une grande libération, une grande affirmation des femmes.
La France n'était pas pionnière dans ce domaine. Dès 1893, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays dans le monde à accorder le droit de vote aux femmes. En Europe, c'est la Finlande qui garantit en premier ce droit en 1906. Une étape importante est tout de même franchie, même s'il faut attendre 1965 pour que la loi autorise les femmes à ouvrir un compte en banque à leur nom sans l'autorisation de leur mari.
Messieurs, ne voyez pas de problème majeur à ce que je fasse qu'agir Naïma Mfadel.
Mais on compte sur vous pour avoir la parole ensuite.
Mais évidemment, il y aura l'égalité femmes-hommes.
D'accord.
Naïma.
Oui, merci Thierry. Mais
je vous en prie.
Il faut rappeler que c'est le combat des femmes, et notamment de l'Union française pour le suffrage, qui a été menée par une femme qui a été précurseur et qui s'est beaucoup battue. Je voudrais la citer, Jeanne Schmal, et avec l'appui d'un journal qui s'appelait La Française. Donc c'est le combat des femmes qui a permis cette avancée majeure, et avec l'aide d'hommes. Il ne faut pas l'oublier, derrière une femme, il y a toujours un homme qui, effectivement, soutient aussi. Je voudrais vous le rappeler, messieurs. Alors c'est important parce que, d'autant plus aujourd'hui, je vous avoue, Thierry, que quand j'ai vu qu'il y avait ce sujet, j'ai pensé aux femmes iraniennes aujourd'hui qui combattent pour leur droit et qui, au péril de leur vie. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ce vote a permis aussi en 65 d'avoir un compte bancaire, de pouvoir disposer d'un compte bancaire. Donc, ça, c'est important. En 74, l'IVG, ça a été aussi un combat. Rappelons-nous qu'il y a des femmes qui sont mortes parce qu'on n'autorisait pas l'IVG. En 2000, grâce aux politiques, la parité politique. Et en 2011, la loi Copé-Zimmermann qui a permis l'égalité salariale. Il reste aussi des choses aujourd'hui. Il faut savoir qu'une femme et un homme au niveau des entreprises n'a pas le même salaire. Donc on espère qu'aujourd'hui, eh bien, le gouvernement va travailler à ce qu'il y ait une vraie égalité salariale entre hommes et femmes.
Oui. Vous m'autorisez à interroger les hommes de ce plateau ?
Mais bien sûr.
Kevin. Oui, non, mais c'est intéressant cette petite revue historique parce qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la gauche s'est opposée au vote des femmes parce que pour elle, faire voter les femmes, c'était faire voter les curés et ils pensaient qu'il y avait un lien qui était très étroit entre les deux. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale, où les femmes ont fait preuve d'un courage inouï. Pendant que les hommes étaient au front, elles ont travaillé dans les usines, elles ont remplacé les hommes à l'arrière. Et malheureusement, en 1918, elles sont revenues à la maison. Et on a même créé la fête des mères à ce moment-là. C'est dire si on pensait qu'une femme... C'était d'abord une mère. Et puis il y a eu cette Seconde Guerre mondiale où, à nouveau, en effet, les femmes ont fait preuve d'un courage inouï, ont remplacé les femmes, les hommes ont été exceptionnels. Et là, on s'est dit, en effet, 1944, il faut leur accorder le droit de vote. Et tant mieux. Mais c'est quand même intéressant de voir que la gauche qui se dit progressiste, au départ, était quand même très réticente.
On voit que c'est un professeur d'histoire.
C'est très intéressant. Oui.
Patrice.
Alors, je vais revenir sur ce que Naïma a dit à la fin de son intervention. Effectivement, l'égalité de salaire, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui n'est toujours pas respecté. Et je voudrais raconter une petite anecdote. Dans cette même maison, dans le groupe Canal+, il y a un certain nombre d'années, j'y étais, et il y a eu une journaliste, je ne donnerai pas son nom, très connue, qui est partie voir Pierre Lescure, qui était le président de Canal+, et qui lui a dit « un tel... » fait exactement le même boulot que moi et il est plus payé. En 2 heures, le problème a été réglé. Lescure a augmenté la jeune femme en question. Maintenant, les femmes, c'est vrai, elles méritent et elles ont obtenu ce droit de vote. Il y a quand même quelque chose qui me gêne, moi. Je l'ai noté. En 22, 60% des abstentionnistes étaient des femmes aux élections. C'est quand même quelque chose d'inouï. Ça veut dire qu'on leur a accordé quelque chose et que la plupart, voilà, eh bien, n'en font pas cas. Non, c'est quand même très, 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 très important. Je dois ajouter également que le Vatican, l'ouverture d'esprit, n'ordonne pas le droit de vote aux femmes. Mais il y a quelques pas en avant avec les femmes qui peuvent voter lors des synodes, d'accord. Et puis le dernier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, c'est l'Arabie Saoudite.
Denis.
Alors, c'est intéressant, ces parenthèses d'histoire. En fait, le vote des femmes, c'est typique de la démonstration du principe de Schopenhauer. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était totalement impensable. C'était juste idiot de penser à donner le droit de vote aux femmes. Ensuite, quand c'est passé, et d'ailleurs, on le doit à un seul homme, parce qu'on parle d'autres personnages, bien entendu, et en fait, il y a un historique derrière, bien avant le 20e, mais en réalité, c'est quand même le général de Gaulle qui a eu le courage de le faire. Bon, ça, c'est à noter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand la loi est passée, il se disait, dans les sphères de nos grands-parents, on espère que la femme votera comme son mari. Donc il y avait ça aussi. Donc en fait, c'était un côté dangereux. Et le troisième volet du principe de Schopenhauer, c'est qu'une génération après, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Et alors dans la loi du 13 juillet 1965, c'est très intéressant parce qu'on parle d'accès à avoir un compte bancaire. Mais en plus... la femme avait le droit aussi de postuler un emploi sans en parler à son mari. Donc en fait, étape par étape, l'histoire s'est construite. Alors, Kevin évoquait la gauche. Alors effectivement, la gauche, il y a eu des grandes avancées. Par exemple, dans l'ère Mitterrand, il y a eu des grandes avancées. Mais il ne faut pas oublier aussi que la gauche a eu aussi ses heures sombres en étant un frein à certaines grandes avancées sociales parce qu'ils se revendiquent de toutes les avancées sociales. C'est faux. C'est faux. Ils ont été aussi un frein à des grandes avancées comme ça, notamment avec les femmes.
Et juste un petit mot même, quant aux dérives. Moi, je suis pour la parité. J'adore travailler avec les femmes. Je suis pour une égalité. Mais quand dans le domaine politique, on en est à préférer une femme moins compétente plutôt qu'un homme qui est compétent, moi ça m'interroge aussi. Attention à ce qu'on fait. Si on veut valoriser les femmes, si on veut une égalité qui soit juste, il faut mettre en avant les femmes pour ce qu'elles sont, quand elles sont compétentes, et pas les choisir parce que ce sont des femmes. Attention à la discrimination positive aussi, mais vive l'égalité homme-femme. Et moi j'adore travailler avec des femmes, encore une fois, je préfère même travailler avec des femmes qu'avec des hommes, je vous le dis franchement. Je m'entends beaucoup mieux. Non, sauf vous Thierry, évidemment.
Allez les amis, il nous reste 8 minutes.
C'est pas un travail, c'est un plaisir.
Voilà. Voilà. Je vous ai gardé un petit sujet qui va vous faire réagir. Vous dites « Vive les femmes », on va dire « Vive Paris ».
Exactement.
Pourquoi je vous dis « Vive Paris » ? Parce que Paris vient d'être classée seconde ville d'Europe où il fait bon vivre. C'est en tout cas ce qu'avance Résonance Consultante SI. C'est un institut de sondage canadien et Paris se classe juste derrière Londres et devant Berlin. Je suppose que cela vous interpelle. Ça nous a interpellés au sein de la rédaction. On voit tout ça avec Tancrède Guillotel. Et évidemment, je suis certain que ça va vous faire réagir. On regarde le sujet.
Une capitale enivrante, un tissu urbain légendaire, un métro qui fait envie au monde entier. Quand il s'agit de décrire Paris, le cabinet canadien Résonance n'est pas avare de superlatifs. Dans son classement des meilleures villes européennes de 2024, il classe la capitale française au deuxième rang sur plus de 180 villes retenues. Une place flatteuse qui laisse les Parisiens plutôt dubitatifs.
C'est complètement farfelu.
C'est un cabinet qu'on ne connaît pas, mais on est vraiment très étonnés.
Je ne pense pas que ça soit mérité vraiment, parce que Paris, je suis ici depuis 6 mois et tous les jours j'ai des problèmes, c'est une horreur.
Le classement met particulièrement en avant les aménagements effectués au profit des vélos et des piétons, la modernisation du métro et bien sûr le succès de l'industrie hôtelière et des sites touristiques qu'ont pu apprécier ce couple venu du Mans pour quelques jours.
Bien accueilli partout où on est passé.
Depuis ce matin, on navigue dans la ville et non, c'est très bien.
Très agréable.
On a passé un bon séjour.
Élu l'année dernière destination touristique la plus attractive au monde par la société britannique Euromonitor, Paris semble donc faire l'unanimité, sauf chez les Parisiens, comme une évidence pour Bernard.
Les Parisiens adorent se plaindre, on le sait. L'important, c'est que les touristes adorent Paris. Donc je veux dire, moi, les vrais Parisiens, ils se plaignent parce que nous, on vit ici toute l'année. Donc voilà.
Pour la capitale, le plus gros défi de cette année est toujours devant elle. Pour continuer à faire rêver à l'étranger, la bonne gestion des Jeux Olympiques sera décisive cet été.
Pourquoi je vous ai choisi ce sujet ? Parce qu'évidemment, sur ces plateaux, on a plutôt l'habitude de taper sur la ville de Paris. On le voit dans le reportage. Les Parisiens disent « Ouais, on n'est jamais content, etc. etc. » Mais bon, voilà, il faut être honnête.
Mais en fait, c'est passionnant. C'est absolument passionnant parce qu'on a affaire à une myopie. Partout dans le monde, quand on voyage, qu'on dit qu'on est français, on a toute cette histoire derrière nous et on est très apprécié généralement. Et en fait, c'est assez intéressant parce que le monde entier a un romantisme dingue pour Paris. Et ça, c'est magnifique. Cependant, l'autre côté de la myopie, c'est que nous, on vit tous les jours la réalité de Paris avec, le génie de cette mère à transformer cette ville en la rendant sale. Mais en plus, elle cultive, elle, un romantisme pour les mulots ou les surmulots. Ça, c'est assez incroyable. Cette ville est sale, surtout quand on voyage.
Je me suis dit, combien de temps ils vont mettre pour parler d'Anne Hidalgo ?
Pas longtemps. Et en fait, quand on voyage partout dans le monde, on se rend compte qu'il y a des villes qui sont très bien tenues, qui sont propres, où tout se passe très bien. Nous, on a une ville sale. Et c'est vraiment regrettable parce qu'en fait, on vit sur nos acquis, on vit sur vraiment toute cette belle histoire et on attire 100 millions de visiteurs par an. Ouais. On est les premiers au monde. Le seul problème, c'est qu'on vit sur une rente et on n'entretient pas cette rente. On devrait continuer.
Oui, mais on est classé second.
Et on est classé,
on est classé second selon cet institut de sondage canadien.
Pourvu que ça dure encore très longtemps.
Allez, Kevin.
Moi, j'aime beaucoup Anne Hidalgo, surtout quand elle n'est pas aux responsabilités. C'est peut-être le seul moment où, en effet, j'aime bien la maire de Paris.
Non, mais pourtant, vous aimez travailler avec les femmes.
Ah oui,
pas
bien sûr.
Anne.
Je pourrais essayer. Non mais je suis allé il y a une semaine à Porto au Portugal. Mais à chaque fois je raconte mes vacances, mais c'est quand même effarant. Enfin, vous allez à
vous
Porto.
Vous avez beaucoup de vacances quand même. Hein.
Et une petite. Je suis enseignant. On a un petit privilège
c'est connu,
quand même.
Hein.
Non mais je suis allé à Porto. Les gens sont sympas.
Oui.
On le sourire, c'est propre. Dans le métro, on pouvait manger au sol. Enfin, tout est bien organisé.
Mais dans beaucoup.
J'arrive à l'aéroport d'Orly, l'enfer parisien. Des bus qui ne fonctionnent pas, des gens qui tirent la tronche, des gens qui s'insultent.
Ah bon, qui voulait terminer par une note positive, c'est gagné.
Le métro qui est resté bloqué. J'ai pris le Orly bus pour aller jusqu'à Denfert Rochefort. Je prends le métro bloqué 15 minutes. On est les uns sur les autres. C'est insupportable. Donc quand on vient faire du tourisme à Montmartre, au Louvre, etc., c'est formidable. Mais quand au quotidien on affronte Paris, ça devient impossible. Et le pire, ce sont les transports. Mais c'est une épreuve, c'est une horreur, c'est un enfer. Mais franchement, quand vous prenez la ligne 13, vous avez l'impression de mourir. Mais comment on peut, dans une ville aussi civilisée, nous martyriser autant ? Et regardez Valérie Pécresse.
Moi, je vais terminer par une note positive.
Valérie Pécresse, quand elle elle a mis en merci avant Kevin. Les transports pour les Jeux Olympiques, ah, même elle est ironique, parce qu'elle sait que ça ne fonctionne pas. Donc j'aimerais afficher ma solidarité vis-à-vis des usagers parisiens. Courage à vous, je sais que c'est dur, on est dans la même rame, mais on va y arriver.
Est-ce que quelqu'un peut être positif quand même, Patrice?
Je ne sais pas si les Canadiens ont pris le métro, effectivement, qui est la plupart du temps extrêmement sale. Mais il ne faut quand même pas exagérer, on l'a évoqué ici, les travaux épouvantables, qui ne sont pas uniquement liés aux JO, ça a commencé. Les nid de poules qui se sont multipliés, les rats, l'insécurité, les malversations des vélos qui ne respectent absolument aucune
sur vous, pourtant,
règle, absolument aucune règle, et qui pensent que la justice, c'est pas pour eux. Moi je m'insurge complètement contre ça. Cela dit, Paris reste la ville de la mode. Et de l'amour.
Oui, c'est vrai, Patrice. C'est
Denis,
vrai.
Aidez-moi.
Et notre ville, et Paris, Eiffel, on l'aime. Non, c'est notre.
Et le pire.
Non, mais le
pire. Aidez-moi,
non,
mais
c'est comme le phare d'Alexandrie. La tour Eiffel éclaire. Non, mais là,
Thierry.
Et en tout cas, Paris éclaire surtout mes impôts parce que. Non, mais il faut le dire. On vit de plus en plus mal et la taxe foncière est de plus en plus importante. Bon. Donc on paye pour vivre de plus en plus mal. Moi, je m'interroge.
Neyma, aidez-moi.
Paris est la plus belle ville au monde par son patrimoine. Oui. Non, mais c'est vrai, par son patrimoine.
Reste 1 minute 45 pour l'émission, c'est pas facile.
Elle est l'image de la France, mais malheureusement, elle a été saccagée. Il faut le reconnaître, il faut voir comment sont nos rues, comment les rats, les saletés, les poubelles, et regardez les belles avenues, notamment Rivoli aujourd'hui, qui a été saccagée. Toutes ces belles avenues qui étaient aussi les devantures de luxe, ce n'est plus Paris, malheureusement. Donc oui, force est de constater que notre drame de Paris a quand même sacrément saccagé.
Oui, mais alors comment ils ont fait pour avoir un tel résultat?
Ils ont vu les vidéos, ils profitent de Paris, ils ne supportent pas. Je suis désolé, mais il y a
quand même quelqu'un d'extrêmement important qui a dit Paris martyrisé, mais Paris libéré.
On en vient.
J'attends la libération avec impatience.
Oui, Denis, oui.
Non, mais c'est important.
Moi, je suis pas parisienne.
En fait, c'est assez intéressant de voir que les touristes qui ont ce romantisme, ils le retrouvent aussi sur place parce que ils vont pas surveiller le mulot, ils vont regarder tout, la Tour Eiffel, ils traversent le monde, ils traversent toute la planète pour voir la Tour Eiffel ou aller voir le Louvre, le plus grand musée du monde. Donc c'est ça qui est intéressant. Enfin. C'est qu'en fait ils sont ravis de ce qu'ils retrouvent.
Non mais le romantisme Denis, moi je suis désolé, j'ai très peu eu d'aventures avec des poubelles, avec des rats, avec la ligne 13.
Moi je sais plus quoi faire.
Je ne vois pas où est le romantisme là-dedans.
Non mais Denis, tu as vu les Japonais qui mettent en garde, les Chinois aussi qui mettent en garde. En disant attention au vol. Il y a bien quand même
des retours.
Il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Paris, ils en ressortent traumatisés.
Alors on va terminer par
Paris éclaire le monde.
Ça sera le mot de la fin. Vous l'acceptez?
Oh bah oui.
Voilà.
Mais bon, cocorico quand même. Hein.
Ah oui, vive la France. Évidemment.
Vous me sauvez la vie.
Merci
Thierry d'en avoir parlé parce que c'est intéressant.
Mais c'est important d'en parler.
Notre pays.
Exactement. C'est la fin de Mini News Weekend, des débats très animés. Vous étiez en forme. Merci les amis. Merci pour votre grande fidélité à notre rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est génial. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce dimanche. Le fidèle François Epp qui me parle à l'oreille, qui me dit attention, tu es en retard, tu es en avance. Anne-Isabelle Tellet, Cynthia Pina, Arthur Veil, Isabelle Piboulot, évidemment, qui nous accompagnait avec tous ces flashs d'informations. Merci à la programmation. Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie, à la réalisation, l'excellent Arnold Cara, l'excellent Rodrigue au son, l'excellent David Marin à la vidéo. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Vos prochains rendez-vous dans quelques instants, Enquête d'esprit avec l'excellent Émeric Pourvet et à 14h, l'excellent Lionel Rousseau pour 180 minutes info. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon déjeuner en famille, devant CNews évidemment. Moi je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Passez une belle semaine avec la team Semaine. Au revoir.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.